C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Ici Marine Le Pen. Voici Transatlant Queer, les nouvelles d'Outre-mer avec Christophe Gérard.
Bon, on a dépoussiéré Marine Le Pen pour te faire plaisir, Christophe. Bonjour, Christophe Gérard.
Bonjour, Denis Martin. Comment vas-tu?
Ça va bien. Alors, on commence cette chronique avec une nouvelle qui nous vient d'un pays qu'on citait souvent comme un exemple pour son progressisme, un peu comme le Canada, finalement, le Portugal. Mais le vent semble tourner. On parle d'un véritable coup de force législatif contre les personnes trans et intersexes. Que s'est-il passé, donc, au Parlement de Lisbonne?
Mais c'est un véritable séisme, Denis Martin. On pensait en effet que le Portugal, solidement ancré dans le peloton de tête des pays protecteurs, et pourtant, les 19 et 20 mars dernier, le ciel s'est assombri d'un coup, hein, puisque le Parlement a adopté en première lecture toute une série de projets de loi qui visent purement et simplement à démanteler les acquis de 2018. Alors à l'époque, le pays avait fait l'histoire en permettant le changement de genre à l'état civil sur simple déclaration. Ben, aujourd'hui, il veut faire tout simplement marche arrière.
C'est une alliance politique assez large qui a porté ce projet, si je comprends bien.
Tout à fait. Hein. C'est le résultat d'une coalition de circonstances, il faut le dire, entre la droite traditionnelle, le parti social-démocrate, le parti populaire, avec l'extrême droite du parti Chega. Le vote est sans appel, 151 voix contre 79. On assiste à une offensive frontale qui utilise, une fois de plus, les personnes trans comme des boucs émissaires d'un repli identitaire.
Quand on regarde le détail de ces textes, on a l'impression d'un retour en arrière de plusieurs décennies. C'est le retour même de la pathologisation là, d'être trans ou intersexe.
C'est précisément ça, Denis Martin. En fait, on veut rétablir le verrou médical. Fini l'autodétermination, il faudrait à nouveau qu'un psychiatre ou un médecin valide qui vous êtes pour que l'État daigne modifier vos papiers. Et puis, c'est pas tout, hein, puisque les textes prévoient également de remonter l'âge légal pour le changement d'état civil de 16 à 18 ans, d'encadrer, il faut comprendre par là, restreindre l'accès aux soins des transitions et même d'instaurer une forme de censure scolaire hein, sur les thématiques LGBTQIA+, un peu à la manière de ce qu'on a vu en Hongrie.
Qui, on espère, va changer peut-être avec le nouveau gouvernement, mais ça, on va y revenir. Forcément, là, la communauté sur place ne reste pas silencieuse. Il y a eu des manifestations devant le Parlement.
Tout à fait. Hein. La riposte s'organise sous les drapeaux bleu, blanc et rose. Alors, le message des manifestants est simple et limpide. Mon identité n'est pas un débat. Les associations telles que ILGA Europe ou TGEU sont en état d'alerte maximum. Ce qui est particulièrement cruel, c'est que ces textes menacent aussi les personnes intersexes en affaiblissant notamment les protections contre les mutilations médicales qui ne sont pas consenties. On s'attaque à l'intégrité physique et à la dignité la plus élémentaire.
Christophe, le Portugal était un pionnier. Est-ce que ce retour en arrière risque de faire tache d'huile en Europe?
Ben c'est tout le danger. Hein. L'ONG Forbidden Colors utilise une image qui est très juste. Les personnes trans sont un peu les canaries dans la mine. Elles sont les premières cibles des politiques réactionnaires, mais elles ne sont jamais les dernières. Et quand un pays comme le Portugal, qui était au sommet du Rainbow Map, commence à vaciller, ben c'est toute l'architecture des droits humains en Europe, qui est fragilisée. Le passage de ces textes en commission sera un test de vérité. Alors, est-ce que le Portugal va choisir de rester une démocratie inclusive ou alors de céder aux sirènes de la réaction? Ben, en tout cas, une chose est sûre, Denis Martin, c'est que quand un pionnier recule, c'est nous tous qui perdons du terrain.
Bon, tu continues avec un sujet qui touche au cœur de notre quotidien numérique. On le sait, pour beaucoup d'entre nous, les applications de rencontre sont devenues le passage obligé pour faire des connaissances. Mais ces espaces de drague se sont transformés pour certains en véritables terrains de chasse. Le gouvernement français vient de réagir avec une annonce de taille là, ce 23 mars dernier. On s'attaque enfin donc à ces guet-apens.
Eh oui, enfin, c'est le mot. Il était temps hein, que l'État siffle la fin de la récréation pour les prédateurs. C'est la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, qui porte ce dossier. Elle tente ici de répondre à un constat absolument glaçant. Rien qu'en 2024, on recensait en France un guet-apens LGBTphobe tous les 4 jours. Alors le mode opératoire est d'une cruauté chirurgicale et on a tous en tête le témoignage d'Eddie Reynaud hein, que tu
Oui.
avais reçu il y a quelques semaines. Eddie, c'est un militant de chez SOS Homophobie et il te racontait hein, ce rendez-vous à Nice dans le quartier Pasteur avec un faux profil Grindr, une impasse et soudain deux agresseurs qui surgissent. Il a été projeté contre un mur, asphyxié. Et il raconte, quand je me réveille, je marche courbé, je ne sais plus où je suis. C'est l'horreur absolue, d'autant que sa plainte a été classée sans suite. Alors, pour être clair, on ne parle pas de rencontres qui tournent mal, hein, mais on parle vraiment de crimes de haine prémédités.
Wow. Et pour contrer cela, donc, Aurore Berger, le ministre de l'Égalité, a réuni les gérants du secteur. Qui a signé cette charte d'engagement?
Bah, on a les poids lourds. Il y a Tinder, Grindr, Bumble, Happn. Alors c'est historique hein, parce que la France devient hein, le premier pays au monde à instaurer un tel niveau de coopération. Alors l'idée, c'est de briser le sentiment d'impunité derrière l'écran. Concrètement, la charte prévoit un accès facilité aux données des agresseurs pour la police et surtout un bannissement croisé. En fait, si tu te fais virer d'une application pour comportement violent, bah, tu ne pourras pas aller recréer un profil sur une autre application.
Ah bon, OK. Justement, sur la question des profils, il y a toujours cette peur de perdre l'anonymat, qui est parfois une protection vitale pour les membres de nos communautés, de notre communauté ou de nos communautés, je devrais dire. Comment la ministre compte-t-elle s'y prendre?
C'est un point d'équilibre délicat, hein. La ministre, se veut rassurante. En fait, l'objectif, c'est pas de forcer les gens à afficher son nom et son prénom en public. Loin de là, on parle de généraliser le profil vérifié. En interne, c'est-à-dire par un selfie ou une pièce d'identité, l'utilisateur pourra ensuite choisir de ne filtrer que les profils certifiés. Alors, c'est une façon de réduire drastiquement le risque de tomber sur un cas de fiche malveillant sans pour autant sortir du placard de force.
Alors, les associations comme SOS Homophobie ou Stop Homophobie en Europe ou en France ont beaucoup poussé pour cette signature. Elles sont satisfaites du résultat?
C'est une victoire pour elles, hein, c'est indéniable. Elles seront aux premières loges pour former les modérateurs et élaborer les messages de prévention. Mais il y a un mais. Stop Homophobie a noté avec amertume que certains acteurs, pourtant présents aux discussions, n'ont pas encore signé. Alors, on parle de Scruff, Hornet ou Roméo. La porte reste ouverte, hein, mais le message est clair. Pour être efficace, la sécurité ne peut pas être une option à la carte.
Et au-delà des agressions physiques, les associations demandent déjà d'élargir ce combat à d'autres réalités comme le chemsex.
Absolument, hein. La sécurité, c'est quelque chose de global. Les dérives liées au chemsex, je sais que tu en as souvent parlé, sont souvent facilitées par ces mêmes plateformes. Alors, c'est le prochain grand chantier sanitaire et sécuritaire. On ne peut pas se contenter de protéger les corps des coups de poing si on ignore les risques d'overdose et d'agression sexuelle sous produit.
Oui, tout à fait. On est à un an de la présidentielle en France. Le contexte économique et le contexte politique, j'allais dire, est lourd. Est-ce qu'il y a une part de calcul politique dans cette annonce?
Bah, on va pas se mentir, hein, Denis Martin, le gouvernement voit les sondages. J'en parlais le mois dernier, il y a 27% de l'électorat LGBT qui serait tenté par le Rassemblement national. Alors c'est paradoxal quand on regarde le bilan de ce parti qui est d'extrême droite, même s'il s'en défend. Le RN, c'est une constante d'abstention ou de vote contre nos droits au Parlement européen, mais également à l'Assemblée nationale. Par exemple, contre la reconnaissance de l'homoparentalité, contre la condamnation des zones sans LGBT en Pologne, ou encore l'interdiction des thérapies de conversion. Il faut pas oublier les liens avec le Hongrois Viktor Orban. Tu en parlais tout à l'heure. Il a
Oui.
été battu récemment. C'était le 12 avril. Lors des élections législatives en Hongrie, il a été battu par quelqu'un qui s'appelle Peter Magyar. Alors, pour nous, ça va pas changer grand-chose hein, pour la communauté LGBT. Ce monsieur est issu hein, du parti d'Orban à la base. C'est un conservateur, certes pro-européen, mais il reste conservateur. Il a fait son programme vraiment sur l'économie et il est resté très ambigu sur les droits LGBT dans son pays.
À suivre. Donc, il nous reste 2 minutes. On va aller tout de suite du côté là, est et sud de l'Europe. On a souvent dépeint ces régions comme étant des bastions de résistance conservatrice, mais depuis le 20 mars, vendredi 20 mars, deux décisions de justice majeures sont tombées. On commence par la Grèce.
Tout à fait, hein, c'est ce qu'on appelle bétonner une réforme. Alors, tu t'en souviens, en 2024, la Grèce avait créé la surprise en devenant le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser le mariage et l'adoption. Mais les opposants et l'Église, notamment, n'avaient pas dit leur dernier mot et ils ont saisi le Conseil d'État pour tenter de faire annuler les modalités d'application et notamment sur l'état civil. La réponse des juges est tombée le 20 mars comme un couperet. Leurs recours sont rejetés.
Bon, that's it. On va aller tout de suite en Pologne parce que là aussi, il se passe de quoi sur le mariage toujours.
Tout à fait. C'est une victoire pragmatique mais capitale. La Cour administrative suprême de Pologne a annulé le refus d'une administration de transcrire un acte de mariage conclu à l'étranger entre deux personnes de même sexe. Alors jusqu'ici, c'était un parcours du combattant. Si tu te mariais par exemple en France ou en Espagne, une fois rentré en Pologne, tu redevenais un célibataire aux yeux de l'État. La justice polonaise vient de dire que tout ça, c'est fini.
Mais ça veut pas dire qu'on reconnaît le mariage homosexuel, du moins pas pour le moment, en Pologne, là.
Non, ça reste la définition du mariage, en tout cas, reste inchangée en Pologne. Mais la Cour s'aligne sur le droit européen, et ça, c'est une victoire. Hein, pour garantir la liberté de circulation et le respect de la vie familiale, l'administration est désormais obligée de prendre en compte les unions de personnes de même sexe.
Christophe Gérard, qu'on rejoint en banlieue de Paris, ou j'aurais peut-être pu dire en région, plus en province, à Mérou, et qui est aussi le rédacteur du blog Queer de rien. Merci beaucoup.
Merci à toi, à bientôt, Denis.